et bienvenue sur Radio Valois-Mulsien.
Nous sommes les 19 élèves de la classe des CM1 de l'école des Remparts de Verberie. Nous vous présentons notre émission.
Les stars de la radio.
Nous avons rédigé par groupe de 2 ou 3 9 articles.
C'est parti pour le sommaire.
On débute avec le monde du football. Mettez vos crampons et vos protèges tibia pour écouter Méo qui va vous présenter l'attaquant Erling Haaland.
Massi, lui, ce sera le gardien Thibaut Courtois et enfin Nathan parlera du Barcelonais Pedri.
Ensuite, échauffez vos doigts, Nella, Taïba et Fleur vont vous parler d'un instrument de musique qui s'appelle le piano.
Prêt pour la plus belle des mélodies ?
Puis remontons dans le temps avec Zaïdan, Anton et Dalel.
Ils vont vous informer sur ce qui s'est passé durant la période historique des temps modernes.
Sortez votre tenue d'époque.
Après, allumez votre console. On poursuit avec le jeu vidéo Rayman présenté par Mathis et Riyad.
Bienvenue dans la croisée des rêves.
Nous poursuivons avec Léna et Elliot qui vont vous informer sur l'histoire de la fabrication de l'électricité.
C'est parti pour le voyage en câble.
Ensuite, apprêtez-vous à une longue course. Place à Mélina et Hugo pour vous informer sur le trail.
À vos marques, prêts, partez!
Puis éteignez vos lampadaires. Voici Abby et Abigail qui vont vous alerter sur la pollution lumineuse.
Attention aux flashs!
Et pour finir, un peu d'histoire avec Noé et Prentice. Ils ont travaillé sur l'évolution des outils agricoles.
Sortez vos tracteurs et vos fourches, c'est l'heure de la moisson!
Nous ferons pendant l'émission 4 pauses musicales.
Et n'oubliez pas, ce sont les 19 élèves de la classe des CM1 de l'école des Remparts de Verberie que vous écoutez.
Attention, cela va commencer, merci d'être là, on vous souhaite...
Bonne émission.
Méo,
Nathan,
Massil. On va vous parler de 3 footballeurs professionnels que sont Erling Haaland, Pedri et Thibaut Courtois.
Débutons avec Méo.
Erling Haaland a 22 ans, il est né le 21 juillet 2000 à Leeds, en Angleterre, mais il a 2 nationalités, norvégienne et britannique. Cela fait 17 ans qu'il joue au foot, mais c'est en 2016 qu'il devient professionnel. Erling Haaland mesure 1m95, il joue au poste d'attaquant, il porte le numéro 9. Il est gaucher. Le club où il joue actuellement est Manchester City en Premier League. Il a débuté sa carrière en 2016 en Norvège dans le club de Brøndby FK, puis il a joué la saison suivante au Molde FK, où il a joué 2 ans, il a marqué 7 buts. Ensuite, il part en Autriche de 2019 à 2020 au RB Salzbourg. Il a marqué avec ce club 29 buts, puis de 2020 à 2022, il devient le joueur du club du Borussia Dortmund. En Allemagne, il a mis 86 buts. À Manchester City, où il est actuellement, il a marqué 31 buts, toutes compétitions confondues.
Appel lointain de l'autre côté avec la présence de John Stones. Et qui pouvait réaliser ce geste à la Zlatan, à la Erling désormais, Erling Haaland, 84e minute. Le coup de Kung Fu incroyable pour permettre à Manchester City de prendre l'avantage.
Il joue également dans l'équipe de Norvège depuis 2019. Il a déjà mis 21 buts.
Erling Haaland reçoit la balle dribble le gardien et marque.
Savez-vous comment s'appelle son père? Il s'appelle Alf Ingaland, c'est un ancien joueur professionnel qui est passé par les clubs de Leeds ou de Manchester City.
Place maintenant à Nathan qui va vous présenter Pedri.
Pedro González López, dit Pedri, né le 25 novembre 2002 à Tegueste, dans les îles Canaries. C'est un footballeur international espagnol qui évolue au poste de milieu relayeur au FC Barcelone. Il mesure 1m59, il est droitier. La technique de Pedri le rend notamment capable de s'en sortir dans les petits espaces, de faire des percées, balles au pied et d'avoir un jeu de passe créatif.
Dembélé qui revient, la passe derrière Pedri, est-ce qu'il va frapper? La tentative d'encrocher, c'est bien fait. Pedri encore, oh, allez, bien joué Pedri!
Il commence sa carrière en 2015 dans le club de sa ville natale à Lude Tegueste.
La saison suivante et jusqu'en 2018, il joue dans le club de la Juventud Laguna. Il rejoint ensuite le club majeur des Canaries, l'Union Deportiva de Las Palmas.
En 2019, il a marqué 4 buts.
Puis il signe au FC Barcelone en 2020. En 100 matchs, il a déjà marqué 15 buts. En mars 2021, Luis Enrique le convoque pour la première fois avec l'équipe nationale d'Espagne, que l'on appelle aussi la Rora.
Pedri, là, là, voilà, ça c'est le Pedri qu'il faut qu'il aille. Ferran Torres le saute la tête. Et le deuxième but, Azpilicueta au départ de l'action. Voilà l'Espagne devant.
Pedri a remporté plusieurs distinctions individuelles. Le Golden Boy en 2021, un prix donné par les journalistes sportifs pour un jeune footballeur d'Europe perçu comme ayant été le plus impressionnant au cours d'une saison.
La même année, il reçoit le trophée Copa, trophée qui récompense le meilleur joueur d'au moins de 21 ans de l'année.
Enfin, concernant son palmarès, il a gagné avec le FC Barcelone la Coupe d'Espagne en 2021
et la Super Coupe d'Espagne en 2023.
Bien joué, bien fait, bien fait. Gabi, voilà, ballon en retrait, Pedri.
Terminons notre article avec Massil qui va nous parler du gardien Thibaut Courtois.
Thibaut Courtois est un gardien national belge. Il est né en 1992 à Bray en Belgique. Il est âgé de 30 ans. Il joue au Real Madrid depuis 2018. Thibaut Courtois mesure 2 mètres, taille qui est à son avantage. À l'âge de 8 ans, il est repéré dans un club belge où il évolue au poste d'arrière gauche. Il découvre le poste du gardien durant un tournoi. Depuis ce jour, il a toujours occupé ce même poste.
Oscar, il joue derrière avec Acuña. Acuña pour un centre, vers peut-être la tête. Oh Courtois, le miracle et la grande parade d'un grand gardien, Thibaut Courtois.
Il a évolué dans ses clubs professionnels comme le Racing Genk en Belgique de 2008 à 2011, puis en Espagne à l'Atlético Madrid de 2011 à 2014. Ensuite dans le club Chelsea en Angleterre jusqu'en 2018 et enfin au Real Madrid où il joue toujours actuellement. Sa carrière internationale débute en 2011. Il débute contre l'équipe de France le 15 novembre. À la Coupe du Monde du Qatar en 2022, il est titulaire avec l'équipe de Belgique. Il a encaissé 2 buts contre le Maroc le 27 novembre.
Ziyech! Oh, what a finish! And it is finished! Belgium 0, Morocco 2.
Thibaut Courtois a gagné de nombreux titres dans sa carrière. Il est champion de Belgique en 2011
avec
le Racing Genk,
avec l'Atlético de Madrid en 2012. Il est le vainqueur de la Ligue Europa et de la Supercoupe d'Europe en 2013, de la Coupe d'Espagne et en 2014 champion d'Espagne.
Avec Chelsea, il est champion d'Angleterre en 2015, 2017 et vainqueur de la Coupe d'Angleterre en 2018.
Enfin, avec le Real Madrid, en 2018, il est vainqueur du Mondial des clubs, en 2019 de la Supercoupe d'Espagne, en 2020 et 2022. Il est champion d'Espagne, puis la saison dernière, Thibaut Courtois est vainqueur de la Ligue des Champions et de la Supercoupe d'Europe.
Et il a un pénalty importantissime au bout de son pied gauche. Magique, Léo Messi face à Courtois, c'est parti, c'est arrêté par Thibaut Courtois. Léo Messi en échec, arrêt exceptionnel.
On espère que cet article vous a plu.
Pourquoi as-tu présenté Thibaut Courtois ?
Car Thibaut Courtois est mon idole depuis que je suis gardien au football. Et Nathan, pourquoi as-tu parlé de Pedri ?
Parce que j'aime bien Pedri, parce qu'il joue au FC Barcelone. Et toi, Emeo, pourquoi t'as choisi Haaland ?
Parce qu'il est gaucher au foot comme moi et que j'adore le foot.
Goal ! Hasta luego, Fezan.
Écoutez les stars de la radio
sur RVM.
Bonjour, on s'appelle
Nella,
Taïba
et Fleur.
On va vous parler du piano.
Le piano est un instrument de musique à clavier dont les cordes sont frappées par des marteaux.
Le piano a au total 88 touches, 52 touches blanches et 36 touches noires.
Il possède un pédalier de 3 pédales.
Celle de droite, la pédale forte, sert à retenir et à faire durer le son.
Celle du milieu est soit une sourdine qui étouffe le son, pour diminuer l'intensité sonore.
Pour ne pas déranger le voisinage, soit c'est une pédale de sostenuto, soutenue en italien,
qui permet de maintenir une note grave pendant que l'on joue d'autres notes, sans mélanger leur harmonie.
Celle de gauche, la pédale douce. En rapprochant les marteaux des cordes ou en décalant les marteaux latéralement. Le piano est très populaire.
Il permet de jouer plusieurs notes en même temps.
On dit que c'est un instrument polyphonique.
C'est aussi un instrument qui demande une très bonne coordination des mains, sachant qu'il faut jouer avec la main droite et la main gauche.
Le piano a évolué au cours des siècles et est devenu l'instrument roi au 19e siècle. Le piano droit, il s'agit d'un piano dans lequel tous les mécanismes sont à la verticale sauf le clavier.
Le piano a que à une mécanique à l'horizontale.
Les cordes sont plus longues que sur le piano droit, donnant un meilleur son et la projection du son du piano à queue ouverte est dirigée vers l'auditoire.
Le piano est l'un des instruments les plus utilisés dans la musique classique occidentale.
Permet de réaliser de nombreuses combinaisons sonores, ce qui en fait également l'instrument de prédilection de nombreux compositeurs.
Citons Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791. Il a en quelque sorte inauguré le piano avec ses sonates.
Exemple,
le célébrissime
Rondo a la Turca,
aussi appelé marche turque.
Lou
Ludwig van Beethoven, 1770-1827, a aussi écrit un grand nombre de sonates pour piano.
Parmi les plus connues, on compte La tempête ou Le clair de lune.
Pour terminer l'article, écoutons le titre polonaise de compositeur de musique romantique Frédéric Chopin.
On l'a appelée polonaise parce que le compositeur Frédéric Chopin était polonais par sa mère et qu'il a été influencé par des danses populaires de son pays.
La polonaise est une danse presque marchée.
Elle symbolise aussi pour Chopin la résistance du peuple polonais face au pays qui a voulu l'envahir à l'époque, la Russie.
Chopin a composé sa première polonaise à l'âge de 7 ans. Voilà, notre article est terminé.
J'espère que
ça vous aura plu. Taïba, pourquoi as-tu choisi ce thème ?
Parce que je l'ai bien aimé. Et je fais presque du piano à la maison, mais à la maison de ma cousine. Et toi, Nella ?
Moi, je n'en fais pas, mais j'aime le piano.
Qu'est-ce que t'aimes bien dans le piano ?
Le son. Et toi, Fleur ?
Moi, ce que j'en fais et que j'aime la musique.
Petite pause musicale. Qu'on va écouter le chanteur M avec Big Flo et Oli. Ils sont... Fous ces humains, extrait de la bande originale d'Astérix et Obélix.
Ta folie, au contraire, c'est ce qui te rend humain. La vie est en colère, on se le disait gamin. Pour moi t'es comme un frère, tous les deux on ne fait qu'un. Sur les chemins d'hier, en chantant ce refrain, ils s'en foutent ces humains, ils s'en foutent ces humains, ils s'en foutent ces humains.
Son histoire, il suffira d'attendre qui voudra y croire. Dans les tours de béton ou dans les tours d'ivoire, les chemins se croisent et sont contradictoires. On trouve des vrais frères de combat, comme si le destin l'avait écrit. Dans tous les cas, y'aura que l'amour qui nous sauvera. Et je suis tombé dedans quand j'étais petit. Ils s'en foutent ces humains.
On a mis le monde à l'envers.
Ils s'en foutent ces humains.
On a plus les pieds sur terre.
Ils s'en foutent ces humains.
Sa part du gâteau, c'est pas où la paix. J'ai raté le panneau. Faut de la lumière, même en hiver.
Il serait temps que l'humain change, une espèce d'animal étrange obsédé par les différences qui le séparent de l'essentiel. Il voudrait mener la danse, il veut effacer les distances qui donnera les évidences à ces questions existentielles. Depuis la nuit des temps, on essaie d'avancer sans voix. Dans tous les camps, on retient jamais les défaites mais les victoires. On casse et on répare, on s'arrête, on repart, on rêve d'autre part.
Tant qu'on s'aime, c'est pas trop tard.
Ces humains,
on a mis le monde à l'envers.
Ils s'en foutent ces humains.
On a plus les pieds sur terre.
Ils s'en foutent ces humains.
stars de la radio.
Bonjour.
On s'appelle Anton,
Zaidan
et Dalel.
On va vous parler de la période historique qui s'appelle les temps modernes.
Elle débute à la fin du Moyen-Âge et couvre les trois siècles dits classiques, 16e, 17e, 18e.
Elle est située avant l'époque contemporaine.
Les limites précises peuvent varier, par exemple en France, selon les historiens. La fin de cette période
est marquée par le début de la Révolution française, c'est-à-dire 1789, ou du début du second règne de Louis XVIII, c'est-à-dire 1815.
On va essayer de répondre à cette question générale. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les temps modernes ?
On va vous parler des modifications dans le domaine de la pensée, des bouleversements mondiaux et enfin des progrès dans les sciences.
Quelles sont les modifications dans le domaine de la pensée ?
Au XVIe siècle, naît l'humanisme. Il s'agit d'un mouvement d'idées qui place l'homme au centre de la pensée et du monde.
Et à la Renaissance, XVe et XVIe siècle, avec un renouveau dans la littérature, les arts et les sciences.
C'est également la période des échanges culturels et des bouleversements religieux. C'est aussi une nouvelle compréhension de l'univers avec les astronomes Nicolas, Copernic et Galilée.
Une nouvelle religion apparaît en Europe, le protestantisme, fondé par Jean Calvin et Martin Luther. Ils n'étaient pas d'accord sur certains points avec l'Église catholique.
La réforme de Luther met un terme à l'hégémonie du catholicisme. Elle modifie les alliances politiques, entraîne persécutions, exils, soulèvements et guerres, sans parler des scissions évangéliques un peu partout dans le monde.
Les temps modernes, c'est aussi le siècle des Lumières, période du 18e, caractérisée par un grand développement intellectuel et culturel.
Il est également à l'origine de nombreuses découvertes, d'invention et aussi de révolution.
On observe aussi des bouleversements mondiaux. Christophe Colomb, le marin d'origine italienne, découvre en octobre 1492 des terres inconnues.
Des Européens qu'il croit être une partie écartée des Indes, ces terres se révéleront être l'Amérique.
Ainsi, Christophe Colomb appelait les Américains les Indiens car il croyait être arrivé en Inde.
Christophe Colomb poursuit là-dessus son exploration d'île en île. Il débarque à Cuba, puis sur l'actuel Haïti.
Les temps modernes, c'est aussi entre 2,5 et 5 millions d'Amérindiens réduits en esclavage du 16e au 19e siècle.
Ce phénomène explique la destruction de ces civilisations par les colonisateurs espagnols.
Au 16e siècle a eu lieu la traite des Noirs africains par les Européens pour procurer de la main-d'œuvre dans les colonies.
La traite des Noirs africains et la capture et le commerce de prisonniers noirs, africains noirs, revendus comme esclavage dans d'autres régions du monde.
Enfin, le Japon s'isole du monde au début du XVIIe siècle.
Pendant deux siècles, le Japon va rester isolé. Mais il va quand même se développer en ayant récupéré toutes les technologies des Européens et des Chinois.
Les temps modernes, c'est aussi des progrès dans les sciences et les techniques.
Gutenberg, en 1450, dans son atelier en Mayence, en Allemagne, invente l'imprimerie.
Les livres sont produits beaucoup plus rapidement et en grande quantité. quantité.
Au XVIIIe siècle, il y a eu le début de la révolution industrielle, période marquée par la modernisation de pays.
C'est l'invention de la machine à vapeur en Europe, l'industrie est née.
Les transports s'améliorent ainsi que l'agriculture et la navigation.
C'est aussi le début de la chimie moderne avec Lavoisier, le chimiste français.
On invente à cette période le thermomètre grâce au physicien
Réaumur, Galilée, Celsius et Fahrenheit.
Galilée, ce savant, brillant mathématicien et grand observateur de la nature, aura révolutionné la science de la Renaissance.
C'était Anton, Zaidan et Dalel qui vous ont parlé des temps modernes.
Pourquoi t'as choisi ce thème, Zaidan ?
Parce que j'aime bien l'histoire des temps modernes. Et toi, Anton ?
Pour que tout le monde sache qu'est-ce qui s'est passé pendant les temps modernes. Et toi, Dalel ?
J'aime bien l'histoire.
Au revoir.
Les stars de la radio sur RVM.
Bonjour, on s'appelle
Riyad Matisse.
Youhou !
On va vous présenter la série de jeux vidéo de plateau qui s'appelle Rayman.
Le premier jeu est sorti en 1995. Le dernier jeu en 2019. Il s'appelle Rayman Mini. Ce jeu vidéo d'action de plateforme est produit par l'entreprise française Ubisoft.
C'est l'ancien concepteur de jeu Michel Ancel qui est à l'origine de la série Rayman.
Le premier jeu est sorti en 1995, le dernier en 2019. Il s'appelle Rayman Mini.
Ce héros n'a ni bras, ni jambes, ni cou.
Par contre, il possède des mains et des pieds qui sont en mesure de se déplacer de façon autonome par rapport à son corps.
Il est capable de lancer à longue distance son poing et c'est d'ailleurs ce qui fait l'originalité du personnage.
Il peut aussi utiliser ses cheveux pour flotter en les faisant tourner dans le style d'un hélicoptère.
Il porte généralement des gants blancs, des chaussures de sport jaunes. Il a un corps ovale, un t-shirt de couleur violette avec une raie blanche en forme de O dessus.
Il a un caractère de leader. Sûr de lui,
il n'est pas très grand, il mesure 1m60.
En apparence, il ne paraît pas fort, mais plutôt chétif.
Mais en réalité, il se cache de grands pouvoirs qui lui permettront de sauver la croisée des rêves à maintes reprises.
Quelles sont les origines du jeu ? Avant les événements, la croisée des rêves était uniquement peuplée par de petits êtres de lumière appelés de Lums.
Un jour, les Lums se mirent à penser et leur conscience s'incarna en un être étrange et merveilleux, Polocus.
Ce dernier décida d'utiliser son pouvoir pour peupler la croisée des rêves car le moindre de ses rêves devient réalité.
Mais c'est également le cas de ses cauchemars.
Bétia et d'autres fées décidèrent alors de créer un personnage pouvant lutter contre ses cauchemars.
C'est alors que naquit Rayman.
Le fait qu'il n'ait ni bras ni jambes s'explique ensuite. Les fées manquaient de l'Ums lors de sa création.
Parlons maintenant du jeu sorti en 2011 qui s'appelle Rayman Origins.
Il est sorti sur différentes consoles, la PS3, la Xbox 360 et la Wii.
Le jeu est également disponible sur différentes consoles portables, Nintendo, PlayStation Vita ainsi que sur Windows.
Quel est le scénario du jeu ? Il y a fort longtemps, la croisée des rêves a été peuplée par le puissant Polocus dont tous les rêves deviennent réalité.
Mais le calme de ce monde aujourd'hui brisé, les créatures malfaisantes issues des cauchemars de Polocus jusqu'alors enfermées dans la lugubre lande s'échappent de leur prison souterraine pour semer à nouveau le chaos dans la croisée des rêves.
Pour sauver son univers, Rayman doit partir à l'aventure accompagné de Goblox et de deux petits êtres.
Il commence par parcourir les 5 premiers mondes pour libérer les 5 fées.
Sur le chemin, il libère les Ectoons prisonniers et échange des Lumps aux magiciens pour obtenir plus d'Ectoons. Quel est le système du jeu ?
Le jeu se joue comme Mario Bros avec des actions supplémentaires.
Comme frapper, planer, rétrécir, nager sous l'eau et courir sur les murs.
Ces pouvoirs vont se débloquer au début de chaque monde pour aider à progresser.
Il y a aussi des dents en rubis à récupérer pour accéder à une partie secrète.
Le site jeuxvideo.com l'a décrit comme étant un chef-d'œuvre.
Mathis, pourquoi t'as choisi de parler de ce jeu à la radio ?
Parce qu'il n'y avait personne d'autre qui avait pris le jeu Rayman. Et toi, Riyad ?
J'aime bien ce jeu vidéo. Qu'est-ce que tu aimes bien dans ce jeu ?
C'est parce qu'il y a plusieurs mondes, le jeu il est long, il faut un certain nombre de lums pour débloquer plusieurs tableaux. Einstein.
Petite pause musicale, on va écouter le groupe Coldplay avec le titre Paradise. She was
écouter les stars de la radio
sur RVM.
Bonjour. Bonjour, on s'appelle
Elliot
et Léna. On va parler de l'électricité.
Qu'est-ce que l'électricité ?
L'électricité est un moyen très pratique et très important de notre société pour transporter l'énergie nécessaire à de nombreuses utilisations. Éclairage, appareils ou machines comportant un moteur électrique, électronique ou appareil de chauffage.
Qui a inventé l'électricité ?
L'électricité existe depuis aussi longtemps que le monde, avec la foudre par exemple. Par contre, elle a été découverte petit à petit et on a inventé des moyens de la produire et de l'utiliser.
Dans les années 1880, les premières lignes électriques font leur apparition. À partir de 1900, l'électricité entre dans la vie courante.
Pourquoi l'électricité est-elle importante ?
Autrefois, pour répartir l'énergie dans un atelier ou une usine, on utilisait des systèmes mécaniques, principalement des poulies, c'est-à-dire des roues et des courroies, des bandes résistantes qui servaient à attacher.
Ces systèmes provoquaient souvent des accidents.
De plus, l'énergie ne se transportait pas loin.
C'est pourquoi ces ateliers et ces usines étaient construites proches des sources d'énergie, au bord des cours d'eau ou encore proches des sources combustibles qui permettaient de faire fonctionner des machines à vapeur comme les grandes forêts ou les mines de charbon.
Notre monde moderne est très dépendant de l'électricité.
Pour s'en convaincre, il faut essayer d'imaginer ce que serait une journée sans lumière électrique. Sans train électrique, sans ascenseur, sans air conditionné, dans les pays chauds, sans usine.
Avoir de bonnes sources d'électricité est un souci de première importance pour tous les gouvernements du monde.
Plusieurs sortes d'énergie sont actuellement utilisées pour la production d'électricité.
L'énergie solaire peut être captée par des panneaux solaires et être transformée en électricité.
L'énergie thermique, produite grâce à l'énergie contenue dans le charbon ou le pétrole, permet de chauffer de l'eau et de créer de la vapeur sous pression dans les centrales thermiques.
Cette vapeur va faire tourner des turbines qui servira à produire de l'électricité. Qu'est-ce qu'une turbine ? C'est un moteur composé d'une roue.
Malheureusement, ces centrales thermiques sont polluantes.
Le pétrole et le charbon sont des énergies fossiles, c'est-à-dire qu'il faut les extraire du sol et ne sont donc pas inépuisables.
L'énergie nucléaire, dans les centrales nucléaires, c'est l'énergie contenue dans la matière qui permet de chauffer l'eau. Ces centrales peuvent être dangereuses pour l'environnement en cas de problème, cas de la centrale de Tchernobyl, mais elles font tout de même partie des énergies propres, c'est-à-dire non polluantes.
L'énergie hydraulique est utilisée dans des barrages hydroélectriques. L'eau est revenue par des barrages et amenée à s'écouler à travers un conduit, au bout duquel se trouve une turbine.
Le déplacement de la turbine permet, à l'aide d'un générateur, de produire de l'électricité. L'énergie éolienne produite par le vent permet de faire tourner les immenses hélices reliées à des générateurs produisant de l'électricité.
Certains pays en ont placé dans des endroits désertiques ou dans des mers.
Enfin, l'énergie musculaire permet aussi de produire de l'électricité. Dans certains vélos, une dynamo est couplée à une des roues. Elles permettent de transformer l'énergie de rotation de la roue en une énergie électrique qui peut allumer une ampoule.
Mais attention,
le corps humain est un conducteur, l'électricité peut brûler et même tuer par l'électrocution.
Il est important de ne jamais jouer avec des prises électriques.
J'espère que l'article vous a plu.
Léna, pourquoi t'as choisi de parler d'électricité ?
Parce que l'électricité, c'est très important dans la vie et qu'elle peut aussi servir à quelque chose. Et toi, Elliot ?
Parce que je suis passionnée d'électricité.
C'est vrai que tu fais des montages à la maison ?
Oui. Ensuite, écoutons Hugo et Mélina pour le trail.
Au revoir.
Bonjour, on s'appelle Mélina et Hugo. On va vous parler du trail. C'est quoi le trail ?
Le trail est un sport de course à pied sur une longue distance.
Il se pratique généralement en milieu naturel, sur des chemins de terre ou des chemins de randonnée.
Ce terrain peut être constitué d'herbe, boue, rochers de sable et gravier, neige et d'obstacles naturels tels que des troncs d'arbres, des racines ou des courteaux.
Le trail se déroule en plaine, en forêt ou en montagne.
Les trails peuvent être pratiqués tout au long de l'année, quelles que soient les conditions météorologiques, neige, pluie, chaleur extrême.
Certaines courses ont lieu de jour, d'autres de nuit, ou bien pour les plus longues, sur plusieurs jours ou plusieurs nuits.
En trail, la notion de proximité avec la nature est importante.
Le respect absolu de l'environnement est souvent mis en avant et les organisateurs de courses font le plus souvent en sorte que le passage des coureurs ait un impact réduit sur la nature.
L'équipement d'un coureur de trail se compose d'un sac à dos avec à l'intérieur des courses pour l'eau et les boissons énergétiques, bâtons
nécessaires, médicales et couvertures de survie, passeport, lampe frontale et pile de rechange, couvre-chef, veste et pantalon imperméable et enfin des chaussures qui possèdent des crampons.
La fatigue du coureur est le principal élément limitant les performances sportives, favorisant les blessures.
La fatigue peut être de plusieurs natures, manque de sommeil, fatigue au niveau des muscles, fatigue du système nerveux, cerveau-nerf.
Toi, comment ça va?
Ça va pas bien, je suis content.
Yes.
Les jambes sont là.
Ouais.
Pas de bobo.
Parfait, ça.
Terminons notre article en vous parlant d'un ultra trail. Le Grand Raid, il a lieu à l'île de la Réunion, département d'outre-mer dans l'océan Indien.
Cette course est organisée chaque année au mois d'octobre. Elle est réputée pour être l'une des plus difficiles au monde.
La distance de course est de 165 km.
Le dernier termine en 66 heures, soit plus de 2 jours et demi.
Son départ est donné de nuit dans le sud de l'île à Saint-Pierre.
Traversant l'île du sud au nord, le tracé forme une diagonale.
Le surnom de cette grande course nature est donc la diagonale des fous.
18h07 de course. On va manger un peu, puis on repart. Pas que ça va faire, mais il va faire nuit.
Les concurrents commencent la course par une ascension du massif du Piton de la Fournaise, un volcan actif de 2632 mètres.
Les participants passent beaucoup de temps à monter et à descendre.
Les sentiers de la course sont très techniques. Il est donc compliqué de se déplacer rapidement, y compris dans les descentes.
Le paysage change constamment tout au long de l'itinéraire.
Jungle, désert de sable, prairies vertes. Durant l'épreuve, toute l'île vit au rythme de la course, ce qui donne une ambiance exceptionnelle.
Chez les hommes, c'est le Français Peignat Marmisol qui a remporté la 34e édition de la Diagonale des Fous le 23 octobre 2022 en 23h14min46s.
Chez les femmes, c'est l'Américaine qui a gagné la course en 24h37min47s. Courtney Dalwater qui a gagné la course en 24h37min47s.
Du coup, pourquoi t'as choisi ce thème ?
J'ai pris la course parce que j'adore la course et mon papa, il a fait l'ultra trail de la Diagonale des Fous. Et toi, pourquoi tu as choisi ce thème ?
J'avais envie de parler du sport à la radio.
Merci d'avoir écouté notre article. Au revoir.
Petite pause musicale.
On va écouter Shakira
avec Waka Waka.
You're a good soldier, choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it. But you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh. And if you fall, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. Cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. For Africa. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sakalewa. Anawa, ah, ah. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sakalewa. It's time for Africa.
I'm well on my journey, biggie, biggie, mama. 1, 2, Z. Party, so sell on my journey, biggie, biggie, mama. From east to west. Party, waka, waka, my eh, eh. Waka, waka, my eh, eh.
RVM.
Bonjour, nous sommes Abby et Abigail.
Nous allons vous parler de la pollution lumineuse, également appelée photopollution.
C'est la présence de lumière faite par des hommes dans l'environnement de nuit.
Les éclairages artificiels sont si nombreux qu'ils nuisent à l'obscuration normale et souhaitable de la nuit.
Ainsi, à la tombée de la nuit, d'innombrables sources de lumière artificielle prennent le relais du soleil dans les centres urbains jusqu'aux plus petits villages.
Les éclairages artificiels sont si nombreux qu'ils nuisent à l'obscurité normale et souhaitable de la nuit. Les sources de lumière artificielle proviennent principalement des éclairages publics, des véhicules, des publicités, des signalisations lumineuses ou bien des bureaux allumés en permanence.
Il existe plusieurs types de pollution lumineuse, dont l'éblouissement, une lumière gênante qui se propage horizontalement,
La pollution lumineuse est une forme de pollution assez peu évoquée car a priori peu néfaste pour la santé lorsqu'on la compare aux pollutions classiques, mais pourtant celle-ci n'est pas sans conséquences sur le vivant et peut être facilement réduite.
Elle perturbe les écosystèmes de la faune et trouble la faune et la flore.
La pollution lumineuse a des impacts sur les plantes.
En cas de pollution lumineuse, pendant l'hiver, certaines plantes ne fleurissent pas au bon moment.
Elles auront donc également des fruits plus tard pendant l'année, ce qui perturbera les animaux qui se nourrissent de ces fruits.
La pollution lumineuse a également des impacts sur les animaux.
Les animaux les plus impactés par la pollution lumineuse sont les oiseaux migrateurs.
La plupart d'entre eux migrent la nuit. Si la pollution lumineuse est trop forte, cela les désoriente et ils se perdent.
La lumière peut gêner les oiseaux en les empêchant de dormir pendant la nuit.
Elle impacte également les oiseaux nocturnes comme les hiboux et les chouettes.
Lorsqu'il y a de la lumière artificielle, ces rapaces se font repérer et leur proie s'enfuit.
Enfin, la lumière artificielle modifie le comportement des insectes.
Ceux qui produisent de la lumière telle que les lucioles et les vers luisants voient leurs signaux lumineux brouillés lorsqu'ils pénètrent dans des environnements trop éclairés.
La pollution lumineuse a des effets qui sont encore débattus sur la santé humaine, tels que le sommeil, l'obésité, la perte de densité osseuse et de muscles, et peut arriver à développer un cancer.
Elle perturbe notre horloge biologique basée sur l'alternance du jour et de la nuit, faisant ainsi diminuer notre production de mélatonine, l'hormone du sommeil.
Et qui dit nuit perturbée dit santé en danger.
Cependant, le sentiment d'insécurité qui naît parfois la nuit dans les rues non éclairées peut constituer un frein à l'extinction des feux.
Romain Sordello, un ingénieur expert en biodiversité, reconnaît enfin une évolution positive dans la prise en compte de ce sujet avec une explosion des articles de presse, des reportages et projets concrets.
Il remarque toutefois que ces intérêts croissants peuvent parfois aller trop vite dans la mesure où l'on ne dispose pas encore de toutes les connaissances scientifiques nécessaires pour déterminer quels peuvent être les impacts relatifs à une certaine quantité et intensité de lumière en particulier.
Conclusion. J'espère que l'article vous a plu. Pourquoi as-tu choisi de parler de la pollution lumineuse à la radio ?
Parce que c'est un sujet important. Et toi, Abby ?
Et moi, je trouve que c'est bien d'avertir les gens.
Au revoir.
L'histoire de la radio.
Bonjour, je m'appelle Noé.
Bonjour, je m'appelle Prentice.
Nous allons vous présenter l'histoire des outils agricoles. L'agriculture est apparue à la préhistoire, vers 8000 avant Jésus-Christ. Les hommes préhistoriques utilisaient une hache polie pour défricher les forêts et faire des champs à la place. Cette hache avait un manche en bois et une lame en pierre polie. Ils utilisaient aussi une faucille pour couper le blé. Elle était faite avec un morceau de bois incurvé et une lame en silex. Ils avaient également des fourches en bois. Ces outils étaient donc très simples. Le travail devait être long et épuisant.
Au Moyen Âge, les paysans utilisaient la faux pour couper le foin, la faucille pour couper le blé, la hache pour couper le bois, le fléau pour battre les céréales, mais aussi par exemple la fourche pour remuer la paille ou l'herbe.
Ces outils étaient en bois et en métal. Pour s'aider, les paysans utilisaient des animaux comme les chevaux et les bœufs.
Au Moyen-Âge, on a inventé la charrue qui a beaucoup aidé pour retourner la terre, mais le travail était difficile.
La grande invention qui a tout changé, c'est le tracteur. Le tout premier tracteur à vapeur et à chenilles a été inventé par le russe Fyodor Blinov en 1881. Le tracteur Froelich, conçu par John Froelich en 1892 aux États-Unis, est le tout premier tracteur équipé d'un moteur à explosion fabriqué de manière industrielle.
Cela a rendu plus facile le travail. Depuis, les tracteurs ont beaucoup évolué. On peut citer, par exemple, le tracteur Fendt 700 Vario.
Ce tracteur possède de 203 à 283 chevaux. Il a la capacité d'aller à 60 km/h. Il est équipé de feux LED. Il y a un système de freinage à double circuit. Il est doté d'une assistance au freinage de la remorque. Pour ce qui concerne la cabine, le tableau de bord numérique possède un écran de 10 pouces et un terminal de 12 pouces sur l'accoudoir, avec des fonctions intelligentes comme l'autoguidage, le demi-tour automatique et bien d'autres encore. Il possède même une glacière
avec une fonction réchaud. D'autres machines agricoles sont aussi apparues comme
la moissonneuse-batteuse qui sert à moissonner le blé, l'ensileuse à maïs pour faire de la nourriture pour les animaux,
la machine à vendanger pour récolter le raisin,
les feuilleuses décolteuses-arracheuses pour récolter les betteraves à sucre,
ou encore un robot pour récolter les salades.
À cela s'ajoutent les outils qui se fixent sur les tracteurs, comme le cultivateur, le semoir, la herse, la charrue, le pulvérisateur, les remorques, etc.
Comme les automobiles, les engins agricoles ont un système de localisation et de guidage par satellite.
Couplé à l'ordinateur de bord, le GPS permet, grâce à une cartographie détaillée du terrain, de guider avec une grande précision les machines agricoles dans les travaux des champs, comme pour les semis et l'épandage d'engrais. Et cela même quand il y a une visibilité médiocre,
comme dans le brouillard
ou dans l'obscurité.
Les outils agricoles ont beaucoup évolué au cours des ans, ce n'est pas terminé.
Le Massey Ferguson MF Next n'est encore qu'un concept, mais il devrait faire 260 chevaux, avoir une conduite autonome ou semi-autonome, des pneumatiques sans carbone avec un système de télégonflage, une adaptation automatique de la suspension de la cabine et de nombreuses technologies embarquées.
Les découvreurs, ces hommes ont changé notre planète. Ces inventeurs ont fait de vous l'homme que vous êtes.
J'espère que l'article vous a plu. Pourquoi Noé, t'as voulu parler des outils agricoles?
Parce que j'aime bien ça. Et toi, Pandis?
J'aime bien ça.
Voir les auditeurs. Auditeurs.
Les découvreurs.
Petite pause musicale. On va écouter Le Grand Voyage, Charlie Aldebert, Camille et Julie Berthollet.
J'étais avant d'arriver sur terre, à bord d'un nuage, un bout de songe, un petit grain de poussière.
Regarde les étoiles en attente, c'est là-haut que tout se prépare. Quand elles deviennent filantes, c'est que quelqu'un arrive ou part.
Papa, dis-moi qui j'étais avant d'arriver sur terre, un personnage de conte de fées, une esquisse, un courant d'air.
Tu vois les étoiles, mon trésor, c'est là-haut que tout se conçoit. Quand l'une d'elles brille plus fort, c'est que quelqu'un veille sur toi.
D'où venons-nous? Où allons-nous?
Puisque nous sommes de passage, alors chantons.
Que faisons-nous sur ce caillou?
Nous garderons de ce voyage cette chanson. Regarde le soleil qui décline, on dirait qu'elle est en chemin. Un croissant de lune se dessine, c'est qu'elle sera du matin.
D'où venons-nous? Où allons-nous?
Puisque nous sommes de passage, alors chantons.
Que faisons-nous sur ce caillou?
garderont de ce voyage cette chanson. Dans cette onirique épopée, cette aventure où nous n'avons pour bagage que des hypothèses. Dans cet infini voie lactée où nos cœurs battent à l'unisson, les voyages forment la genèse. Malgré ce vide qu'on éprouve, il arrive à destination. Les gens qui s'aiment se retrouvent et forment une constellation.
En cas de pollution lumineuse pendant l'hiver,
l'Union Deportiva,
Union Deportiva
de Las Palmas,
de Las Palmas,
de Las Palmas.
Échauffez vos baskets.
La centrale de Tienobtien,
accompagnée de Goblox et de Pitzertre, de Teaser.
Deux petits êtres.
La décrit comme étant un chef d'œuvre.
RVM 4E 96.7
et
Fahrenheit.
Et Fahrenheit.
RVM 90 fois E.
Constamment.
Tout au long.
On est où là?
C'est vrai que tu fais des montages à la maison?
Oui.
Tu peux en parler?
Et poursuivez avec la pollution et luminous. Couvert chef, veste. Couvre-chef.
Avoir des bonnes sources d'électricité et un souci de permettre importance. Certains pays ont placé dans des endroits désertiques.
Une nouvelle religion apparaît en Europe, le protestantisme.
156-1791.
Influencé par des danses populaires.
Bravo.
Les participants... Attends,
les participants passent beaucoup de temps à monter et à descendre.
D'autres machines agricoles.
Pourquoi t'as choisi ces thèmes, ce thème, Zaydan?
Avec une explosion.
Dans le club de la
On observe aussi on observe
les stars de
un ingénieur express.
Expert.
Courtney Dalwater.
Qui a gagné?
Non, c'est à toi de le dire, c'est pas à moi.
J'espère que vous a plu.
Linitéraire.
Linitéraire.
avec les astronautes Nicolas Copernic.
Ou en décalement, les râteaux en décalement.
Les marteaux.
Pour se semer à nouveau le chaos.